Bonjour mes frères et sœurs, je reviens sur ce que je vous ai enseigné vendredi soir au sujet du bonheur. Parce que j'ai eu pas mal de réponses à ce sujet, de questions, et ben, je vais revenir là-dessus. On va relire le psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6, je prends ma Bible. J'espère que vous avez tous une Bible maintenant que vous venez sur Révélation Bible. Hein. Et pour vous en procurer une, vous pouvez en acheter même sur Amazon, vous trouvez ça, c'est pas compliqué. Alors je vous encourage vraiment à vous acheter une Bible. Je vous encourage aussi à aller sur notre site Révélation Bible, parce que là vous êtes sur la page Facebook. C'est une bonne chose, mais cette page Facebook, elle représente un site sur lequel il y a des milliers de choses qui sont très intéressantes pour vous. Et je vous encourage à aller visiter cela et d'étudier justement la Bible. Alors, vous êtes dans 23, le psaume 23, 6, je vous le relis. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Voilà. Je vous parlais vendredi soir de la vertu et de l'intégrité, et ce matin, ben, je vais vous parler de plusieurs autres chemins qui permettent au bonheur de vous accompagner, puisque oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur vous accompagne sur le chemin, et le chemin, ben, on le sait, nous autres chrétiens, c'est Jésus. Hein. Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Et le bonheur, selon Dieu, ne peut pas vous accompagner en dehors eh bien, de ce chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs qui sont venus écouter, qui ont décidé de prendre un peu de temps pour pouvoir nourrir leur âme. Je te demande, mon Dieu, de leur donner ce dont ils ont besoin. Merci, Jésus. Amen. Alors, même si vous êtes très religieux, le bonheur ne peut pas vous accompagner en dehors du chemin qui est Jésus. Parce que pour marcher à la suite du bon berger, de Jésus, ben, il faut être fidèle et pas seulement religieux. Beaucoup de gens sont religieux sentimentalement, traditionnellement. Il y a même un texte dans la Bible qui dit « Vous annulez ma parole par vos traditions ». Vous voyez, annuler la parole, c'est annuler Jésus. Jésus est la parole faite chair. Il est la parole de Dieu. On ne peut pas annuler la parole de Dieu, prétendre aimer Dieu, simplement parce qu'on a une croyance traditionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? J'explique, parce que ce que j'ai vraiment conscience que les mots n'ont pas la même valeur pour tout le monde dans le milieu chrétien. Écoutez bien. Dieu bénit, nous bénit selon notre foi. Là-dessus, on est d'accord. Notre foi doit être placée sur Jésus et sur personne d'autre. Parce que, comme nous le dit, je crois que c'est le deuxième commandement, que notre Dieu est un Dieu jaloux, il ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne veut pas, n'est-ce pas, que nous placions notre foi sur quelqu'un d'autre que lui. Votre foi en Jésus est égale à la foi en ce que Jésus et ses apôtres, qu'il a envoyés lui-même, on dit, ni plus, ni moins. Notre foi en la parole de Dieu est la source d'une vie dotée d'un objectif qui est divin et d'une perspective qui est éternelle. Il faut se souvenir, n'est-ce pas, qu'il est question là de notre salut. Donc, de quelque chose de très important. La foi ne va pas sans les actes. Donc, la foi, c'est un principe pratique qui suscite de la diligence, de l'action dans la continuité, de l'action tranquille, mais de l'action ferme. La foi et les actes qui vont avec se manifestent dans une attitude positive et dans notre désir de faire de bon cœur tout ce que Jésus attend de nous. C'est la foi qui nous pousse à fléchir les genoux pour implorer Dieu de nous guider. C'est la foi qui nous pousse à fléchir humblement les genoux devant Dieu et non devant des statues, pour être encouragé, pour être relevé si nous en avons besoin, et pour pouvoir continuer à agir dans la paix, avec confiance, pour accomplir ce qui est conforme à sa volonté. Sa volonté, mais rien n'est plus simple que de connaître la volonté de Dieu, elle est écrite. Vous avez tous une Bible ? Quelqu'un l'autre jour me posait la question, quelle est la meilleure Bible ? Alors, elles ont toutes, ce sont des traductions, donc elles sont toutes bien si vous voulez. Mais c'est bien d'en avoir plusieurs pour pouvoir comparer. Il y en a juste une que vraiment je n'aime pas, c'est la Bible des Témoins de Jéhovah. Ils l'ont vraiment trop trafiquée. Ils ne croient pas dans la divinité de Jésus, et ça m'est insupportable. Donc je vous recommande pas celle-là, mais autrement, vous pouvez avoir la Bible de Jérusalem, la Bible de Louis II, la Bible d'Arby, vous avez plein de traductions. Mais ce qui est important, c'est d'accomplir ce qui est conforme à la volonté écrite dans la Bible, à la volonté de Dieu écrite dans la Bible. Nous ne pouvons donc pas agir selon sa volonté si nous ne la connaissons pas. Et nous ne la connaissons que si nous nous informons de ce qu'est la volonté de Dieu. Nous pouvons la connaître qu'en lisant la Bible, qui est le message de Dieu aux hommes, aux femmes, aux enfants que nous sommes. Alors, tout au long de notre vie, sur notre chemin, sur votre chemin, vous allez, comme tout le monde, être éprouvé, et les épreuves, elles sont là, afin que vous vous rendiez compte si vous agissez selon les commandements du Seigneur ou pas. Dieu ne va rien apprendre sur vous. C'est vous qui, dans vos épreuves, vous allez regarder mais comment vous agissez, comment vous réagissez dans vos épreuves, et vous allez voir si votre façon de faire est selon les Écritures ou pas. Jésus est le Seigneur. Aucun pape n'est seigneur. Même s'il se prétend infaillible, il n'est pas infaillible. Seul Jésus-Christ, le Seigneur, est infaillible. Et c'est en lui seul que nous devons placer notre confiance, notre foi. Et c'est à lui seul que nous devons une absolue et complète fidélité. Les épreuves nous montrent à nous-mêmes jusqu'à quel point nous lui sommes fidèles. Et les épreuves exigent que nous marchions résolument, fidèlement, avec une foi constante en Jésus le Messie. Quelqu'un me posait la question, mais pourquoi on dit toujours Jésus-Christ ? Alors j'ai précisé à cette personne, Christ, c'est pas le nom de famille, hein ? Christ, ça veut dire roi ou Messie. Les Juifs, longtemps avant Jésus, attendaient le Messie. Les prophètes leur avaient annoncé le Messie. Et quand Jésus est venu, alors il s'est présenté comme le Messie. Un jour, l'apôtre Pierre, Jésus disait, mais qui dit-on que je suis ? Et l'apôtre Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est l'Esprit de mon Père. Et voyez-vous, comprendre que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ, mais c'est de la plus haute importance, parce que, alors à ce moment-là, on sait que c'est à lui que nous devons faire confiance. En tant que chrétien, c'est vers Jésus que nous devons nous tourner, et non pas vers une religion. Et nous pouvons avoir confiance en étant certains que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa promesse, selon ses promesses écrites dans la Bible. Alors souvenez-vous d'entretenir votre foi par la lecture de la Sainte Bible, et par des actes conformes aux exigences de Dieu. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que vous pouvez dire j'ai la foi, mais si vous agissez, si vous n'agissez pas, ben votre foi elle est morte. Et si vous agissez contrairement à ce que Dieu veut, même si vous avez la foi en Dieu, ben votre foi elle est morte devant Dieu, elle est morte. Les gens diront peut-être, oh, cette personne a la foi, elle est tout le temps fourrée à l'église, elle est tout le temps en train de... Non, ça c'est devant les hommes, oui, vous pouvez tromper les gens peuvent se tromper à votre sujet, mais Dieu ne se trompe pas. La foi doit être accompagnée d'actes qui sont conformes aux exigences de Dieu, et ces exigences, on les trouve dans la Bible. Ainsi, notre foi ne s'affaiblira pas. Votre foi ne s'affaiblira pas, même dans les moments de grande difficulté, si vous êtes constant. Si vous êtes constant, le Seigneur accroîtra votre faculté de vous élever au-dessus de vos difficultés. Mais souvenez-vous, la foi, ce n'est que ce qu'on... Cela vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce qu'on comprend. Le mot « entendre » peut signifier « comprendre ». On va lire dans les Écritures, dans Romains chapitre 10, verset 14. Romains 10, 14. Je vous fais la lecture. Voilà ce qui est écrit. Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce que, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, le Jésus de la Bible, hein, je ne parle pas du Jésus des religions. Toutes les religions disent qu'elles ont la vérité, mais toutes se contredisent. Il faut avoir un absolu de foi, c'est la Bible. Alors, comment donc les gens font-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils font parler. Il y a des gens qui me disent « Qu'est-ce que vous voulez nous casser les pieds avec Jésus ?» Mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, les gens ne peuvent pas savoir. Alors, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Je me rappelle d'un prophète qui disait « Ainsi dit le Seigneur, des milliers de personnes vont venir au portail pour se convertir. » Je dis « Mais c'est pas juste. » La prophétie n'est pas juste parce que les gens ne peuvent pas se convertir si personne n'annonce l'évangile. Vous comprenez? Les gens ne viennent pas se convertir comme ça sur un coup de tête. Non, c'est parce qu'ils entendent l'évangile prêché. Alors je redis, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, il y a des hommes, des femmes qui sont envoyés pour annoncer l'évangile. Je suis l'un d'eux. Je suis sans doute pas le meilleur, mais je fais ce que je peux et j'espère que cela vous bénit. Ensuite, il est écrit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, c'est-à-dire tous ne se sont pas soumis à cette bonne nouvelle, tous n'y ont pas cru, bon, ils l'ont entendu, mais ils n'y ont pas cru. En effet, Ésaïe, le prophète, dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Pas notre prédiction, à notre prédication. Qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, le mot « entendre » signifie « comprendre ». Quand vous écoutez quelqu'un et dites « t'as compris ?»« Oui, oui, je t'entends bien. » Ça veut dire « je te comprends bien ». Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Parce que maintenant, Dieu a parlé, et ce qu'il a dit est consigné dans la Bible. Donc, il est nécessaire que vous connaissiez, afin d'avoir la foi, la vraie foi. Vous comprenez ? Je suis sûr que oui. Un, il faut connaître ce que le Seigneur a dit et fait. Deux, on le sait si on en a entendu parler ou si on a lu la Bible. Trois, on doit comprendre ce qu'on a entendu de la parole de Dieu ou lu de la parole de Dieu. On doit le comprendre. Et si vous ne comprenez pas, eh bien les serviteurs de Dieu sont là pour vous expliquer. Et alors, là est le problème, parce que tous ont des interprétations différentes. Mais le Saint-Esprit va vous guider. Si vous êtes une personne qui priait, le Saint-Esprit va vous guider et vous n'allez pas écouter un mercenaire, vous écouterez un vrai berger. C'est pourquoi Dieu a toujours envoyé des personnes pour enseigner ces choses. Et par-dedans, ben, y a des gourous qui se sont mis là, plus ou moins importants, dans des sectes plus ou moins importantes, voilà. Mais si vous ne connaissez pas ce que Jésus a fait et a dit, vous ne pouvez pas avoir la vraie foi. La foi, c'est la confiance. Dans le mot confiance, il y a F-I, fi. C'est grec. C'est ce qu'a donné le mot foi. Vous trouvez le mot fille aussi dans fiancé, hein, la confiance. On est unis dans la confiance. Fidèle, il y a le mot fille aussi, vous voyez. Fille, foi. La foi, c'est la confiance, c'est la fidélité. Peut-être que, en ce moment, vous êtes assis, et vous êtes assis parce que vous avez eu confiance dans le siège sur lequel vous êtes assis. Vous avez mis votre foi dans le siège. Vous n'avez pas réfléchi, oh là là, est-ce que vraiment il est solide? Non, non, vous êtes assis. La foi pour le salut éternel ne peut pas être mise sur n'importe quoi. Vous pouvez avoir la foi en n'importe quoi. La foi dans la chaise, la foi dans ce que vous dit votre banquier, la foi dans ce que dans toutes sortes de choses. Mais la foi pour avoir la vie éternelle doit venir de la parole de Dieu, de la Bible. Uniquement sur le message de la bonne nouvelle du salut que la Bible enseigne. Alors bien sûr, il y a d'autres livres qui enseignent très bien la voie du salut. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé mille fois. Mais si ces autres livres dévient un peu du message du salut gratuit offert par Jésus, eh bien ne posez pas votre foi sur ce que disent ces livres. Si ces livres vous disent « Oui, Jésus vous a sauvé, mais maintenant il faut que vous fassiez des bonnes œuvres pour être sauvé », c'est faux. On n'est pas sauvé par nos œuvres, la Bible est claire. On n'est pas sauvé par nos œuvres afin que personne ne puisse se glorifier devant Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire des mauvaises œuvres. Une fois qu'on est sauvé, ben on s'applique à faire des bonnes œuvres. Mais on les fait parce qu'on est sauvé, par reconnaissance envers notre Dieu qui nous a tant aimés. Alors la Bible est en quelque sorte le garde-fou. Si vous connaissez bien la Bible et que vous écoutez quelqu'un, vous allez vite discerner si c'est un envoyé de Dieu ou pas, suivant ce qu'il va vous enseigner. C'est là qu'intervient la sainteté. Alors vous me direz, ah bon, ben oui. Ça, c'est encore un mot qui est mal compris. Saint, ça signifie mis à part. Vous êtes un saint si vous vous mettez à part de ce monde, de péché, pour conformer votre vie à ce que Dieu veut. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais vous êtes saint, c'est-à-dire que vous êtes mis à part. Et puis vous êtes en train, dans cette mise à part, de faire des progrès. Mais du moment où vous avez la pureté du cœur et la pureté des intentions, vous êtes saint aux yeux de Dieu. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vous canonise. Ça, c'est des inventions humaines. Toute la Bible, vous allez voir, quand vous allez lire la Bible, les apôtres écrivaient aux saints. Aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Rome, aux saints qui sont à Galate. C'est-à-dire aux croyants, aux gens qui s'étaient mis à part pour Dieu. Ils n'étaient pas parfaits, ces gens. Mais ils s'étaient mis à part avec la pureté dans le cœur et des bonnes intentions. Comment avoir la pureté du cœur? Eh bien, par la foi. Jésus est celui qui a versé son sang une fois pour toutes afin que vous soyez purifiés. Et si vous croyez cela, si vous mettez votre foi dans ce qu'il dit à ce sujet, si vous vous repentez devant Dieu de tous vos péchés, il purifie votre cœur de tout péché. Et s'il purifie votre cœur, ça veut dire que vous avez le cœur pur. Vous allez me dire, oh là là, mais vraiment, est-ce que j'ai le cœur? Dieu te voit pur. Et toi, ici-bas, sur cette terre, eh bien, tu fais des progrès. Avec tes intentions. Maintenant, justement, c'est là qu'interviennent les intentions. Quelles sont vos intentions? Les intentions, par exemple, d'Ananias et Saphira étaient mauvaises. Vous lirez ça dans Actes 5, 1 à 11. C'était des gens qui voulaient se joindre à l'église, mais avec des petits trucs pas net. Eh bien, leurs intentions étaient mauvaises. Et ils ont payé le prix, n'est-ce pas? C'était grave pour eux. Les intentions de Simon le magicien étaient mauvaises. Vous lirez ça dans Actes 8. 9 à 24, c'est une longue histoire. Il y a plein de gens qui veulent s'approcher de Dieu, mais ils ont des mauvaises intentions. On ne connaît pas le cœur et les intentions des gens. Vous pouvez me tromper, vous pouvez tromper les pasteurs, vous pouvez tromper vos frères et sœurs, votre femme, votre mari, tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu connaît votre cœur et vos intentions. Donc, voilà, soyez honnête. Nous avons à développer notre cœur nouveau, notre cœur purifié par Jésus, en exerçant quotidiennement notre esprit, en priant, en réfléchissant, en méditant, si vous préférez, en faisant chaque jour de bonnes actions, en partageant aussi avec les autres. Voilà. Donc ce sont des exercices au quotidien. Nous nourrissons chaque jour notre nouveau cœur en étudiant les Écritures Saintes. L'autre jour, je parlais avec une sœur qui va se reconnaître, et je lui disais de commencer par l'Évangile de Matthieu. Elle me dit « Non, je vais commencer par l'Ancien Testament. » Je dis « Non, commencez par l'Évangile de Matthieu, s'il vous plaît. » Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament, c'est très bien. Mais l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Nous avons en Jésus-Christ une nouvelle Alliance. Donc, commencez par étudier l'Alliance actuelle. Après, il sera bien temps, une fois que vous serez bien au courant de ce que c'est que la nouvelle Alliance en Jésus-Christ, il sera bien temps d'apprendre toutes les choses qui concernent le peuple juif et toute son histoire. C'est très intéressant. Mais c'est une autre alliance que Dieu avait faite avec eux. Et nous, c'est la nouvelle alliance. J'ai le Nouveau et l'Ancien Testament et je lis dans les deux. Mais pour quelqu'un qui débute, il vaut mieux commencer par le Nouveau Testament, par l'Évangile de Matthieu. Ensuite, vous relisez la vie de Jésus. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Les quatre racontent légèrement différemment. Les mêmes choses à peu près, il y en a qui omettent certaines choses, il y en a qui en rajoutent d'autres, c'est parce que voilà, c'est important quand on est plusieurs dans un endroit, chacun raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ça peut différer un peu, c'est intéressant d'avoir les quatre évangiles, puis après vous lirez les actes des apôtres, c'est-à-dire ce que les apôtres ont fait, et puis après vous lirez les épîtres de Paul aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, etc. Vous allez apprendre plein de choses, mais je vous en supplie, soyez disciplinés, faites-le chaque jour, comme vous nourrissez votre corps chaque jour, comme vous le nettoyez chaque jour, ben faites de même avec ce qui concerne les choses de l'esprit. Et puis aussi fréquentez des frères et sœurs, ne restez pas tout seul dans votre coin, prenez la Sainte Cène avec eux. C'est bien, il faut faire ça, il faut faire ça. Évidemment, quand on rencontre des frères et sœurs, ça donne de la joie, mais ça crée des problèmes, c'est certain, parce qu'on est des humains, et personne n'est parfait. Alors ne dites pas, non, moi je veux pas, je veux rester seul. Non, non, faites pas ça. Ça va vous faire du bien de rencontrer des gens qui croient comme vous, ou à peu près comme vous, et puis ça va vous aider à grandir. Il faut pas vous isoler. Il faut fréquenter les frères et sœurs, et prendre la Sainte Cène avec eux. Voilà, tout ça parce que nous avons une bonne intention, celle de plaire à notre Père Céleste. Bien sûr, un autre élément de la sainteté est lié au fait de contracter et de respecter l'alliance que nous avons faite avec Jésus par son sang. Quand on vient à Jésus, on se repent, ensuite on se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, on reçoit le Saint-Esprit, enfin vous lirez tout ça, vous verrez tout ça. Et puis après on prend la Sainte Cène, tout ça c'est des alliances et des renouvellements d'alliances. Si nous sommes fidèles à notre alliance, le Seigneur peut nous élever au-delà des limites de nos pouvoirs humains et de notre simple compréhension intellectuelle. Des miracles peuvent alors se produire. Quelqu'un me disait, oui mais frère Michel, vous dites, mais tout le monde, tous les croyants peuvent faire des miracles, mais quand même, alors je lui montrais Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, ceux qui auront cru. Mais croire, c'est pas simplement je crois, alléluia, tiens, passe-moi le sel. Non, 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 c'est approfondir, c'est se cultiver. Voilà. Enfin, toutes ces choses que je viens de vous dire. Des miracles peuvent alors se produire en étant fidèles à l'alliance ici-bas sur terre. Si vous êtes fidèle sur la terre, Jésus est fidèle à l'alliance qu'il a faite avec vous et il vous accordera toutes les bénédictions qu'il a promises. Voilà. En fait, être chrétien, c'est une chose. Vous en avez plein, 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 plein. Mais être disciple, c'en est une autre. Et Jésus n'a pas dit « Allez par tout le monde et faites des chrétiens », il a dit « Allez, faites des disciples », c'est-à-dire des gens qui se disciplinent. Hein? L'élément clé du chemin de la vie de disciple, c'est de faire très attention à cultiver justement notre spiritualité qui est décrite dans la Bible. Et puis à être moralement pur. Alors s'il y a des accidents, notre Père Céleste est bon, fidèle, il nous pardonne, et nous pouvons nous relever et continuer sur le chemin. Et c'est là qu'intervient la notion d'obéissance. C'est un mot qu'on n'aime pas tellement, l'obéissance. Le respect des commandements de Dieu. Le respect des commandements de Dieu, il est lié au bonheur. Quand vous faites la prière, le Notre Père, vous dites « délivre-nous du mal », n'est-ce pas? C'est dans la prière. Alors bien sûr, Dieu peut nous délivrer du mal, mais dans une certaine mesure, nous pouvons aussi nous délivrer du mal, n'est-ce pas? Par exemple, rompre avec certaines fréquentations qui sont toxiques. Il y a un petit proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais pourrait y être, hein, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Ça peut nous aider à avoir une vie plus sereine, plus enrichissante, moins compliquée, de mettre une distance avec certaines personnes qui sont vraiment toxiques. Vous savez, les réponses auxquelles on aspire tous et la force que nous désirons tous pour pouvoir affronter les difficultés dans ce monde qui est complexe, qui est changeant, et bien tout ça, ça peut être nôtre si on obéit de cœur au commandement de Dieu. Mais de cœur, pas « Ah, il faut le faire !» Non, non, de cœur. Jésus, notre Sauveur, nous prie, souvent nous disons « nous prions », mais Jésus aussi nous prie, il nous dit « Si vous m'aimez, mais gardez mes commandements !» Il vous prie quand il fait ça. Il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. » Qui c'est qui aime Jésus? C'est celui qui a et qui garde ses commandements. Vous avez ses commandements si vous avez la Bible. Et si vous les gardez, eh bien, vous êtes une personne qui aime Jésus. Il le dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 15 et 21. Vous prendrez l'habitude de lire la Bible et de trouver tous ces textes. Alors, servons-le. Rappelez-vous qu'il a dit « Tout ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. » Alors, servons-le en servant les autres. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas un truc virtuel ou sentimental, ou c'est pas du ressenti. Ça peut être tout ça, c'est tout ce que vous... Mais c'est surtout des actes pratiques. Et ces actes d'amour envers les autres... Eh bien, c'est à Jésus que vous les offrez, et nous avons à faire preuve d'amour, même envers ceux qui ne nous aiment pas. Voilà, en agissant ainsi, nous respectons le plus grand commandement qui est d'aimer Dieu, et le second qui lui est semblable, d'aimer notre prochain. En agissant ainsi, nous nous élevons au-dessus des vents contraires, au-dessus de ce qui est sordide, au-dessus du contre-productif, au-dessus de tout ce qui est amer, et voilà. Et nous sommes dans le bonheur. Nous sommes accompagnés par le bonheur et la grâce, tous les jours. Un bonheur véritable, un bonheur durable. Ah, mes frères et sœurs, puissions-nous tous décider d'aimer le Seigneur et de le suivre. De suivre ses chemins, fidélité, foi, intégrité, toutes ces choses que je vous ai dites ces derniers jours. Et le bonheur et la grâce vous accompagneront. En fait, c'est pas ça le but de notre existence ici-bas sur Terre, mais bien sûr, on n'est pas venu ici-bas pour s'embêter, pour souffrir seulement, pour être dans les doutes, pour être dans... une insouciance de sécurité. Non, on est là pour avoir un bonheur profond. Et nous ne pouvons pas l'avoir tant que nous ne sommes pas véritablement en communion avec celui qui nous a créés. C'est tellement simple. C'est tellement simple à comprendre. C'est pas de la religion, c'est de la logique. Voilà, la logique spirituelle, mais il y a une logique dans la spiritualité. Voilà, la paix est avec vous, que Dieu vous bénisse, à bientôt. Je prie que le Seigneur vous garde et surtout n'oubliez pas, allez sur révélationbible.fr, cliquez sur le petit truc à droite là où c'est écrit YouTube, vous allez pouvoir voir toutes nos anciennes vidéos. Et puis, cliquez sur Facebook et vous rentrerez sur notre... Et puis, inscrivez-vous. Il y a plein de gens qui sont inscrits déjà, mais il y en a beaucoup qui me disent « Amen, gloire », mais ils sont pas encore inscrits. Inscrivez-vous, comme ça, vous recevrez régulièrement sur votre page les nouvelles. De temps en temps, je mets un petit mot. Voilà. Et puis aussi, si vous avez à cœur de faire un don, n'oubliez pas, c'est toujours important. C'est pas pour moi, c'est pour l'humanitaire. Vous savez ce qu'on fait en Afrique, vous le connaissez, vous savez bien. Voilà. Eh bien, que Dieu vous garde dans sa paix. Jésus, je te remercie de m'avoir donné la possibilité d'annoncer ce message encore aujourd'hui et d'ainsi bénir les frères et sœurs qui ont un cœur purifié par ton sang et de bonnes intentions. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir.